Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
Contrairement à un de ses amis écrivains, elle n'a pas décidé d'arrêter d'écrire. Son univers nous aurait terriblement manqué. Celui des lieux épars qu'elle ramène à la mémoire, celui de ces personnes dont elle sait voir la singularité, ces événements qui ont marqué notre histoire, son histoire, cet univers sensuel qui émane de ses évocations et qui en chacun de nous a une résonance. Pour son père, pour les siens, Colette Fellouz évoque les souvenirs et part de son enfance et tente vainement de trouver une explication à cet attachement passionné mais douloureux à la Tunisie et à son peuple. Pièce détachée, le titre de cet ouvrage, édité chez Gallimard, et j'ai le plaisir d'accueillir son auteur, Colette Fellouz. Colette Fellouz, bonjour.
Bonjour, Monique.
Voilà, alors on va pas se... Je sais que vous avez un rhume des foins et de temps en temps, bah, nos auditeurs accepteront que vous ayez une toux légère. Alors dites-moi, les pièces détachées, est-ce que c'est le désir de rassembler ces pièces détachées qui vous ont fait écrire cet ouvrage, qui vous a fait écrire cet ouvrage ou qui n'est pas un roman ? C'est pas un roman.
Pas vraiment, mais c'est la forme est romanesque en fait, oui. Mais tout est autobiographique.
Tout est autobiographique, voilà. Le départ décidé, la douleur qui en résulte, tout ça court tout au long de votre ouvrage.
Oui, parce que c'est quelque chose, c'est une question lancinante depuis l'enfance en fait. Depuis, je suis née en Tunisie et je savais qu'un jour je partirais. Donc,
vous le saviez.
Je le savais, mais... ça flottait dans l'air, on le disait pas vraiment. Mais on savait que, un jour ou l'autre, on disait toujours un jour ou l'autre à la fin d'une phrase. Oh ben, vous savez, on est là, mais un jour ou l'autre. Et du coup, on savait quand même qu'après le bac, on irait faire nos études en France, parce qu'on était, on avait adopté la langue française, hein, avec l'histoire, du protectorat, mais mes grands-parents parlaient l'arabe.
Oui, parce que vous étiez d'origine italienne.
Votre voilà, c'est était... ça, de Livourne. On D'accord. était de Livourne, donc de Livourne, les familles sont passées à Tunis, et puis pendant un certain temps, ils faisaient la navette entre Livourne et Tunis. Moi, je me souviens d'une petite carte de mon grand-père avec une adresse à Livourne, ou alors d'un petit... Un petit étui à lunettes qu'il avait, que ma mère a gardé, c'est mon seul héritage presque, ces lunettes cassées, il avait eu un infarctus comme ça au café dans l'avenue de France à Tunis, et ces lunettes un peu qui ressemblent à celles de Pessoa, vous savez, les petites lunettes rondes, dans un étui très abîmé, mais en regardant bien, il y a encore des lettres dorées Venezia, et donc je sais qu'il les a achetées à Venise. Et voilà, donc mon grand-père m'a beaucoup fait rêver, en fait, je ne l'ai jamais connu puisqu'il est mort en 1925, d'accord, et né en 1865.
Donc vous ne l'avez pas connu, mais vous êtes quand même imprégné de cette culture judéo-italo-tunisienne et française,
oui.
Donc multi, c'est une richesse finalement. Vous croyez
oui.
pas?
Ah oui, je crois que même ça, je l'ai senti toute petite. Hein. J'avais une grande joie à vivre en Tunisie avec ces paysages, ces visages qui n'étaient pas comme les nôtres, mais très proches en fait. On se ressemblait aussi. Hein. Quand on voit les cartes postales, les vieilles cartes postales de 1900, il y a des familles, des jeunes filles juives tunisiennes, et puis d'autres musulmanes, c'est presque les mêmes. Elles sont différenciées par l'habillement, mais quand on regarde après encore plus,
Même type.
Voilà, c'est le même type. Puis après, quand on regarde attentivement, elles sont européennes, en fait. Mmh. Vous voyez, les juifs tunisiens sont plus proches de l'Europe. Sauf que à chaque fois, dans les pays où ils ont été invités, où les juifs ont été invités et protégés, ils ont toujours adopté la culture du pays. Donc, ils étaient à la fois juifs, nous, on n'était pas tellement religieux, mais quand même avec des traditions réelles, hein, des fêtes, et en même temps, Il y avait cette liberté comme ça d'aller et venir d'une culture à l'autre, vous voyez. Donc moi j'ai aimé beaucoup, vous avez raison de dire que c'est une richesse, parce que je crois que j'ai eu la chance de vivre d'abord à cette époque, je suis née en 1950, donc j'ai eu les restes du protectorat, la fête de l'indépendance, et puis après voir un pays se construire, vous voyez, mais avec des douleurs aussi, puisque après l'indépendance, toutes les familles juives partaient peu à peu, vous voyez, suivant les phénomènes historiques.
Avant de parler du départ, je voudrais qu'on parle des lieux, parce que évidemment, il s'agit de Tunis, mais plus encore d'un lieu qui vous est cher.
Oui, c'est vrai.
Et vous en avez déjà parlé, parce que je vous ai lu dans d'autres ouvrages. Il s'agit de
Sidi Bou Saïd.
Sidi Bou Saïd.
Qui est dans la banlieue nord, en fait. C'est à 20 km de Tunis.
Étagé sur le long d'une pente qui va jusqu'à la mer. Ces maisons blanches avec des volets bleus, c'est ça?
Oui, exactement. Voilà. C'est un rêve, en fait. C'est un rêve de village tout blanc et bleu. D'ailleurs, si on regarde bien l'histoire, c'est le baron d'Erlanger qui était amoureux de ce village. Avant, le village était rouge et vert. Avec les couleurs des piliers de l'islam, vous savez, des colonnes de la mosquée. Il a voulu unifier comme ça, c'était un esthète, il a aussi créé toute une grammaire de la musique arabo-andalouse, il a un palais encore là-bas, et c'était à la fin du 19e, et du coup le village est devenu blanc et bleu. Bon, maintenant c'est un peu décrépit, c'est un peu abandonné, mais ça a un charme fou.
Alors j'aimerais que vous nous lisiez un extrait de ce lieu que vous allez arpenter peut-être pour la dernière fois, et on en parlera de cette dernière fois. Il s'agit donc de Sidi Bou Saïd, et vous parlez de vous promener là certainement avec le cœur serré. Alors donc il s'agit d'un extrait du livre de Colette Felouz, Pièces détachées.
C'était en fait après l'attentat, hein. Je parle des gens, hein, du village qui ont été choqués aussi, tous ensemble, maintenant, hagards et muets. J'ai pris les ruelles du haut. Je voulais regarder les choses une à une pour la dernière fois. L'hôtel du figuier, désert. Les géraniums flétris devant la porte, les poubelles chahutées par les chats, les terrasses lézardées, les murs délabrés, les maisons abandonnées, d'autres impeccables de blancheur. Les bougainvilliers insolents de beauté, des rouges et des blancs entrelacés. J'ai revu fugitivement les couleurs du drapeau tunisien et j'ai marché un peu plus vite. J'étais seule dans les ruelles, comme un couvre-feu en plein jour. Les lampions de la mosquée se sont allumés d'un coup, j'ai sursauté. Le ciel rose, les traits du soleil sur la mer au-dessus des terrasses, la silhouette du boucornine juste en face du parking, ses lignes presque japonaises. J'ai laissé le mot cyclamen venir à moi, parce qu'au printemps, on aime toujours y aller faire des bouquets le dimanche. Les dernières hirondelles frôlaient le jardin du Dar Saïd. J'ai salué le gardien des nouvelles villas, assoupi dans sa guérite. Je me suis enfermée à double tour, j'ai respiré longuement, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai retrouvé la mer.
La mer, toujours présente.
Oui, c'est vrai.
Toujours présent.
C'est un lieu qui me rassemble, en fait. C'est une maison que j'habite, qui n'est pas à moi, hein, mais que j'habite depuis quelques années. Et à chaque fois que je vais, j'écris surtout là-bas. Et à chaque fois que je rentre dans cette maison avec la porte de la maison est dans le village, mais après la maison, elle est complètement sur la mer. Oui. Donc on a le dos, on tourne le dos au village et on a cette grande étendue de mer.
Il y a ce calme, cette beauté.
Ouais, les oiseaux.
Vous ouvrez la porte et vous retrouvez le village et des personnes également. Question que je n'avais pas du tout prévue, mais vous y allez encore?
Oui, je vais encore en fait.
Ah,
oui.
D'accord. Parce que vous parlez de départ. Il y a un motif à ce départ, justement, vous l'avez juste brièvement évoqué, il s'est passé quand même des actes de violence fortes, de violence, juste avant que vous n'écriviez ce livre.
Oui, c'était en fait au départ, je voulais écrire un livre sur mon père, et d'où le titre « Pièces détachées ». parce que mon père vendait des machines agricoles et des pièces détachées. Donc sur son enseigne, il y avait écrit Henri Fellous, machines agricoles, pièces détachées.
Et en même temps, c'est un titre bien nommé parce qu'il y a des éléments épars.
Oui, voilà, ouais. Je rassemble, comme vous aviez dit, des fragments de ma vie et je leur donne une cohérence. Et donc, c'était en juin 2015. Il y a eu cet horrible attentat sur la plage de Sousse. Enfin, tous les attentats sont horribles, mais ce jeune garçon qui est arrivé tout en noir, comme s'il était avec un t-shirt noir et un caleçon noir, comme s'il était un vacancier avec un parasol à la main, mais dans le parasol, caché dans le parasol, une kalachnikov. Mmh. Et là, il a vraiment tué tous les gens qui étaient sous
les touristes,
seulement les touristes. Oui. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit en plus aux Tunisiens qui étaient là, qui faisaient le cordon de sécurité, ou les autres baigneurs qui ont voulu l'empêcher de rentrer dans l'hôtel, sur la plage de l'hôtel, parce que vous savez, il y a toujours des plages privées et des plages publiques. Donc lui, il est venu de la plage publique et il est rentré dans la plage privée. Et il leur a dit, ne vous en faites pas, je ne tue que les étrangers. Et cette phrase, ça a été un cauchemar de toute façon.
C'était parce que vous vous êtes sentie rejetée,
oui,
exclue.
Voilà. Je me suis dit, et moi, est-ce que je suis étrangère?
On reparlera de ce questionnement et on imagine très bien le choc que ça a pu être pour vous et pour toute la population, parce que c'est un lieu qui est plein de charme. Là, il y a une douceur de vivre.
Oh, oui, vraiment. Hein,
vraiment,
oui.
Hein, lié au climat, à l'atmosphère.
Et la gentillesse des gens.
Voilà,
aussi.
Exactement. Oui, très particulièrement gentil, ces Tunisiens. Et cette violence en paraît d'autant plus effrayante. Oui. Et là, on sent à un moment donné cette angoisse du fait de cette violence et la mort plane partout. Il y a cette plage de Sousse le 26 juin 2015, mais vous apprenez quasiment en même temps la mort d'un très cher ami.
Oui, Alain Nadeau, qui est mort 15 jours avant cet attentat, vendredi.
Un écrivain aussi.
Un écrivain que j'aime beaucoup, qui était chez De Noël pendant longtemps. Il était directeur littéraire, il a créé aussi Quai Voltaire, la revue aussi Quai Voltaire. Il était à Paris et puis il a été amoureux d'une femme tunisienne. Il était aussi à l'Institut français, il dirigeait l'Institut français, le bureau du livre en Tunisie, après au Québec. Et il a laissé sa carrière diplomatique pour venir habiter en Tunisie avec cette femme qui est sculpteur de verre. Et ça fait 20 ans qu'il était, ça faisait 20 ans en fait qu'il était installé là. Et moi je le connaissais déjà à Paris, mais notre vraie amitié, c'est vraiment raffermie et enrichie en Tunisie. Parce que moi ça me faisait drôle qu'un Parisien ou qu'un Français lâche tout.
Pure souche.
Voilà, pure souche, lâche tout pour venir en Tunisie. Mais bon, c'est l'amour hein, qu'il a mené là, qu'il a conduit là. Et on avait des conversations magnifiques. Et j'aimais bien à chaque fois, quand je revenais en Tunisie, tout de suite, on se voyait. Et là, c'était sur un voilier, avec mon mari d'ailleurs, et un autre ami d'enfance à lui. Et ils partaient d'Amorgos, tout était calme, normal. Ils avaient une grande croisière à faire, donc ils étaient partis depuis 10 jours à peu près, et il restait encore un mois de port en port. Et là, au bout d'une heure de navigation, ils avaient quitté le port, pris le petit déjeuner, tranquille, rien, aucun signe alarmant, vous voyez. Et tout à coup, il y a eu des petits bruits bizarres avec sa bouche. Mon mari a cru d'abord qu'il faisait le clown, vous voyez, il lui a dit « qu'est-ce que tu fais là ?» Et là, hop, sa tête est tombée sur la barre. Et il est mort. Alors il a encore dit un mot parce que mon mari lui a dit, il savait pas en plus, les deux autres ne savaient pas parce qu'il lui voulait être capitaine et il donnait des ordres, mais c'était pas important que les autres ne sachent pas vraiment naviguer, ce qui est un peu imprudent. Donc ils ne savaient pas remettre le moteur parce que le moteur était arrêté. Donc ils lui ont dit, on remet le moteur, on retourne, on va chercher des secours. Et lui, il a dit, on continue, voilà.
Alors, justement, cette atmosphère, ces crimes sur cette plage, la mort brutale de votre ami, tout ça aussi, vous avez évoqué un crime terrible, c'est la Shoah, évidemment, et que vous reliez à l'actualité. Cette actualité, il y a eu David Perle, vous en parlez, à Ilan Halimi, il y a eu évidemment ce qui s'est passé ici, à Toulouse,
sûr, hein, oui,
qui nous a
sûr.
Tous traumatisés, ouais. Également. Et par rapport à la situation de la Tunisie, on est très ému par l'explication de ce jeune garçon de café. Et vous-même, vous avez été touché.
Oui.
Qui vient raconter, expliquer, non pas justifier, mais expliquer pourquoi.
Oui, c'est ça. Il dit que les chômeurs, qu'il y a beaucoup de chômage, que les gens sont pauvres, qu'on s'occupe pas. Il défend pas du tout ceux qui partent. Mais il essaie de m'expliquer que la Tunisie est en fait abandonnée, même par son propre gouvernement, vous voyez, et qu'on laisse les gens. Voilà, avec très peu d'argent, donc ils n'ont plus d'ambition, et même on a beaucoup parlé des diplômés chômeurs, vous savez. Bon, on a un peu exagéré parce qu'ils n'étaient pas si diplômés que ça. Mais quand même, il y a eu un désarroi de la jeunesse, et beaucoup après le printemps arabe, en fait, ils se sont dit, allez, on va devenir des héros. Voilà, c'est oui. Ça. Et ce jeune est accablé aussi. Vous voyez, ce jeune garçon qui a tué les touristes, il a aussi tué la Tunisie parce que les touristes ne viennent plus et chacun est meurtri.
Bien sûr.
Vous voyez, donc c'est aussi tout ça qui est intéressant de voir sur place. Parce qu'on n'a pas la même vision. Moi, quand je suis ici, j'ai plus envie du tout de retourner en Tunisie. Je me dis non, c'est horrible et tout. Et dès que j'arrive, le charme reprend. La conversation avec tout le monde, c'est beaucoup plus complexe et nuancé et ça m'intéresse.
Et en même temps, à un moment donné, vous parlez de la mort de votre Tunisie. Bon, vous dites qu'il faut quitter les lieux, les gens. Et vous avez ce sentiment, et vous l'avez bien exprimé tout à l'heure, qu'en fait, vous n'appartenez plus totalement à la Tunisie.
Oui. Oui, d'ailleurs, quand je vais en Tunisie, on sait pas trop qui je suis, en fait. Bon, à part mes amis, j'essaie de me rendre assez invisible. Vous voyez,
vous fondre.
Je m'habille avec un jean, et pas de bagages, pas de bijoux, rien du tout. Et je vais partout, j'adore. J'aime bien aller sur les marchés, regarder comment les gens vivent. Et puis, il y a des histoires, il y a tout le temps des histoires, mais ça, il y en a partout, des histoires.
Bien sûr.
Mais on
même
sent
en Normandie,
que,
on en parle.
Même en Normandie, voilà. Mais là, j'aime beaucoup parce que il y a juste un sourire, quelque chose qui fait que ça y est, c'est permis, la conversation est permise. Donc on va acheter du poisson au marché, et vous avez toute l'histoire du poissonnier qui vous raconte tout, et c'est magnifique, c'est toujours magnifique.
Mais alors, à plusieurs reprises dans votre ouvrage, il y a cette question, comment en sommes-nous arrivés là ?
Oui, c'est vrai. Je crois qu'on a tous cette question, ici, comme enfin dans le monde entier. Comment le monde a pu se... évoluer de cette façon et devenir si violent, si imprévisible, si... Voilà, moi je sais que je vois beaucoup d'enfants en ce moment aussi qui sont atteints par ça aussi, qui disent « Mais alors peut-être qu'on va nous tuer, je vais aller au cinéma, peut-être qu'on va nous tuer.
Oui. »
Vous voyez, et c'est terrible
qu'un
enfant de 9 ans vous dise ça alors qu'on lui a rien dit, mais il entend, il capte tout. Et alors on essaie de le rassurer. Mais en même temps, je crois qu'on est tous préoccupés. Et comment en sommes-nous arrivés là ? C'est une question arrive à analyser, mais pas toujours.
Et quel gâchis,
oui. Voilà,
Et vous avez une phrase aussi que j'ai relevée, enfin un paragraphe. Si vous permettez, je vais le lire. « J'aurais pu, en me mentant à moi-même, garder cette terre confortablement installée dans ma mémoire et venir y puiser de temps en temps des éclats que j'aurais appelés moments de vérité ou moments de bonheur, en répétant machinalement que nous étions pourtant si bien tous ensemble. Je ne l'ai pas fait, parce que c'était faux. Nous n'étions pas si bien tous ensemble, nous étions à côté, nous nous tolérions, nous nous aimions sans doute, mais jusqu'à un certain point qu'il ne fallait jamais franchir. » Et là, je pense que vous mettez le doigt exactement sur le problème.
Oui, parce qu'avec ce livre, si vous voulez, quand je décide de partir, même si c'est un peu fictif, que c'est pour le livre, parce que maintenant je retourne quand même, mais j'avais envie que le livre décide de me voir partir, quitter les lieux que j'aime complètement. Donc, comme un moment justement de vérité où je vais me dire la vérité et je vais repenser à toute mon enfance, à ces moments un peu douteux, un peu bizarres où il y avait des silences, des gênes, des malaises. Bon, ça passait vite et on voulait pas retenir ça. Mais là, ils me sont apparus et je dis ça, j'aurais pu faire comme d'autres parce que beaucoup de gens qui sont nés en Afrique du Nord, qui soient de toute confession, mais qui ont vécu leur enfance enfance en Afrique du Nord et qui ont dû partir définitivement, comme on dit, gardent un paysage comme
une vision
ça, une vision idyllique. Oui. C'était beau, oui. C'était magnifique, ce qui était vrai. Ce qui est vrai, mais ils n'osent pas, enfin certains le font, mais ils n'osent pas affronter les nuances et les menaces comme ça qui planaient quand même, qui étaient latentes, qui n'éclataient peut-être pas, mais un enfant sent tout en fait. Oui. Et là, dans ce livre, j'ai retrouvé mes regards d'enfant qui questionnaient pourquoi parce qu'il y avait quand même des choses assez violentes. Il y avait même des hommes quand on était petite qui nous touchaient dans le bus, vous voyez, c'était assez bizarre, mais on comprenait pas qui c'était, pourquoi ils se permettaient de faire ça. Certains se permettaient de faire ça et pas d'autres. Donc j'ai accumulé tout ça, mais j'ai voulu retourner toujours pour voir de plus près et aujourd'hui comment c'est. Vous voyez, pour ne pas garder que cette atmosphère idyllique, parce que beaucoup de gens se souviennent des recettes de cuisine, des bouquets de jasmin, et ils disent c'est merveilleux, mais ils ne retournent pas. Et là, avec ce livre, je suis contente parce que beaucoup de gens m'ont dit, écoute, il faut que tu m'emmènes, tu m'as donné envie de revenir, et ça, c'est un bonheur.
Voilà. Colette Fellows, nous allons faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Eric Clapton qui chante Nobody Knows You, donc d'Eric Clapton.
Down and out.
Parole d'auteur. Monique Fauché.
Voilà, et nous retrouvons Colette Fellouz qui vient nous parler de son livre, une forme d'autobiographie intitulée Pièces détachées, édité chez Gallimard. Et alors, donc, nous parlions évidemment de la Tunisie, de ce pays cher à son cœur. Et en fait, vous êtes une nomade parce qu'il y a la Tunisie, il y a la France et même actuellement, vous faites des allées et venues. Ouais. Je pense, vous parlez de votre enfance avec... Vous parlez d'une peur constante, d'une angoisse constante. Et en regardant votre livre, en lisant votre livre, je me suis dit, mais en fait, il y avait plusieurs dualités dans votre vie. D'abord, il y a l'empreinte d'un pays, sa double appartenance apparente aux Tunisiens et aux Français. C'est la terre de vos ancêtres et en même temps, c'est une terre étrangère aux ancêtres.
Oui, c'est cette complexité en fait qui m'a forgée. Peut-être que c'est même ça qui m'a donné envie d'écrire, parce qu'on écrit toujours pour clarifier, pour essayer de comprendre, même si on emprunte des formes romanesques à chaque fois différentes. Mais c'est cette situation aussi qui est très actuelle, vous voyez, qui est un peu ce mélange de France, de pays musulmans, vous voyez, c'est au cœur. Moi, je croyais, quand j'étais petite, je pensais que c'était pas si intéressant, la Tunisie. Je l'aimais beaucoup, mais je pensais que le monde avait autre chose à faire, que la Tunisie, c'était un petit pays, personne ne s'intéresserait à
Paris avait plus d'attrait.
Voilà, Paris, l'Amérique. Oui. Je rêvais de ça. Et aujourd'hui, je me dis, au fond, j'ai été témoin de l'ébauche de ce qui se passe en fait aujourd'hui, comment c'est né. Comment, bon, il y a eu la colonisation, même s'il y avait, je maintiens quand même qu'il y avait de bonnes choses aussi, voilà, des choses positives sur l'enseignement, la santé, l'apprentissage des langues, l'hygiène, et ça, je crois que les Tunisiens le disent encore aujourd'hui. Mais il y avait aussi ça, je l'ai vu aussi, ce côté supérieur quand même de la France. Et moi,
vous
j'ai marché là-dedans.
Voilà, j'ai marché. Ce regard presque méprisant de la part de certains.
Oui, et même moi, quand mon père roulait les airs, vous voyez, dans ma propre famille, je trouvais qu'il parlait pas assez bien le français, qu'il était un peu cassé, justement.
Oui, il y avait une sorte de hiérarchie.
Il y avait une sorte de hiérarchie qu'on apprenait sans doute à l'école ou avec les films. C'était une ville cinéma, comme je dis, il y avait beaucoup de cinéma en Tunisie et depuis toute mon enfance, depuis 3-4 ans, que j'ai 3-4 ans, mes parents m'emmenaient au cinéma, même si parfois je m'endormais.
Donc mais le cinéma est l'éducation, très...
voilà.
Tout. Alors justement, vous parlez de la famille, et je pensais que même au sein de la famille, il y avait une dualité.
Oui, c'est vrai.
Parce que les parents sont des personnes originales et pleines de qualités, mais finalement très dissemblables.
Oui, ils ne s'aimaient pas vraiment, ils ont fait leur vie comme
moi,
ça.
Moi, il me semble que votre père aimait votre mère.
Ah ben oui, lui, il aimait beaucoup, et ma mère était supérieure, parce qu'elle était lettrée, elle était pianiste, elle était artiste, elle était rêveuse, mais du coup, elle a été un peu malade, un peu dépressive, donc c'est lui qui faisait tout. Il disait, je suis un lion, oui, il affrontait tout, il faisait tout en même temps, il allait travailler, après il s'occupait des enfants, il faisait à manger, c'était vraiment un homme qui s'était effacé lui-même pour faire pousser les enfants et pour leur donner la plus belle éducation. Oui, oui. Et ma mère aussi, en un certain
autrement,
sens.
Mais elle le faisait.
Autrement, mais elle le faisait. C'est elle, par exemple, qui m'a appris à lire et à écrire. Je me souviens, elle traçait avec son écriture, une écriture gothique, la première page de mes cahiers. Et j'étais très fière à la plume, comme ça, à l'encre violette.
De même que vous êtes quand même, votre père, c'est ce premier homme, vous reconnaissez cette bonté extrême, cette générosité, trop humble peut-être.
Oui, je crois que ça m'énervait un peu. Par exemple, je sais pas si on allait acheter une glace, vous voyez, il me disait, qu'est-ce que tu veux comme parfum? Alors je lui disais un parfum, je lui dis, et toi? Il me dit, oh, moi c'est pas grave, choisis pour moi. Et moi ça m'énervait, je lui dis, mais tu peux choisir, pourquoi tu choisis pas? Non, ça fait rien. Vous voyez, même là, il n'osait jamais dire ce qu'il avait envie de faire lui. Il était... d'une humilité, c'est vrai, qui était assez désarmante, même pour un enfant.
Alors, je pense que justement, dans ce couple où il n'y a pas d'unité profonde, c'est un facteur déstabilisant pour vous également. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis en parallèle, je me suis dit, dans le fond, dans le pays, il n'y avait pas d'unité.
Oui, non plus. C'est vrai.
Et dans le couple de vos parents, même très aimant à votre égard et à l'égard de vos frères, je pense que c'était en effet peut-être sujet d'angoisse.
Oui, j'étais une petite fille inquiète et je crois que cette, oui, comme vous dites, aussi bien la situation dans le pays, dans la société, mais aussi dans la famille. Mais finalement, je crois que j'ai choisi les études, l'école, la lecture, la danse.
Vous dites
à
un moment donné, la littérature sera un radeau.
Voilà, c'était mon radeau, c'est vrai. Oui. Ça a été mon radeau. Au début, je savais bien sûr pas que j'écrirais, mais je lisais beaucoup, beaucoup. J'écoutais la radio aussi, j'aimais déjà la radio. Et je crois que j'ai plongé là parce que c'était trop... Il y avait de l'insécurité à la fois dans ma famille, même si, comme vous dites, ils m'aimaient... il ne montrait pas du tout d'agressivité, mais il ne savait pas se débrouiller vraiment dans l'éducation. Il le faisait bien parce qu'ils étaient gentils. Il y avait une certaine morale très très belle. Hein, c'était des humanistes en fait. Mais il voulait jamais peser. Il voulait donc du coup il ne voulait pas nous donner trop de choses assez strictes. On était trop libres en fait. Et la littérature...
Le résultat n'est quand même pas mauvais.
Non, c'est vrai. Donc l'école a été ma deuxième famille.
Voilà.
En fait.
Et puis on parlera de Roland Barthes aussi.
Oui.
Et ce premier départ, quand, comme les autres Français, vous avez quitté la Tunisie, ça a été un déracinement. Et tout de suite, on voit que ça vous donne un autre regard sur les immigrés actuels, les exilés. Vous savez ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent, encore que... Vous étiez française.
Oui, c'est vrai que, mais quand même, quitter un pays, je comprends vraiment ce que c'est. Quitter presque pour toujours, vous voyez, un pays, un arrachement, c'est un arrachement, même si sur le coup on ne se rend pas compte, hein, on peut partir. Moi j'étais plutôt joyeuse quand je suis partie, j'avais 17 ans, je savais que j'allais aller à la Sorbonne, retrouver Paris, il y avait un cadre quand même. Mais pour mon père qui est parti à l'âge de 60 ans pour retrouver ses enfants en France, lui, il a laissé vraiment tout. Il a laissé son magasin, il connaissait rien d'autre et sa vie était déjà structurée.
Son magasin qu'il a laissé à ses employés.
Oui, c'est fou ça. Il a donné. Il a dit, je vous le donne. Il a même pas cherché à le vendre. Il a dit, ça me fait plaisir, je vous le donne.
Alors, on passe là de la Tunisie à la Normandie. Alors, je me suis dit, là, c'est un saut improbable parce que souvent, les pieds noirs restent dans le sud.
Oui,
là,
c'est
carrément
vrai.
La Normandie. Vous parlez de la Normandie. Alors, je me suis dit, bon, il y a déjà l'attrait de la littérature parce que Guy de Maupassant comme Flaubert sont normands.
Bien sûr, oui.
Et d'ailleurs, à un moment donné, on retrouve chez vous ce goût des histoires par le petit bout presque de la lorgnette, des gens, des petites gens, mais il n'y a pas de petites gens,
des histoires
que racontaient, qu'aimait raconter Maupassant ou Flaubert.
Oui, j'ai été formée d'ailleurs à Maupassant, j'avais, je sais pas, 10-11 ans, comme ma mère lisait beaucoup, elle me donnait les livres comme ça, comme des brioches, hein, comme des
alors
récompenses.
Alors que Guy de Maupassant...
C'est
plutôt,
dur en fait,
oui,
c'est dur, je me souviens
triste.
De la maison Tellier, je comprenais pas exactement ce qui se passait, mais c'était une maison close, vous voyez, mais je lisais quand même, j'aimais bien cette atmosphère, ça, pour moi c'était la France.
Oui.
Voilà, c'était de l'autre côté, il y a ça, ces marécages, ces forêts, ces histoires terribles,
c'était
un peu fou, c'était exotique, voilà.
Oui.
Pour moi c'était exotique, alors que l'exotisme, je le vivais en Tunisie, mais sans le savoir. Et là, le titre même, Pièce détachée, montre bien que j'utilise des petits boulons, vous savez, des petites vis, des choses de rien du tout, pour passer d'une chose à l'autre, d'un chapitre à l'autre, mais ça ne se voit pas. Donc je prends le prénom de mon père, qui est Henri, je prends ces machines agricoles, et elles vont m'aider à passer en Normandie, sur un grand terrain de normand, et aussi un personnage qui s'appelle Madame Henri, qui n'a rien
alors
à voir avec mon père.
Qui a rien à voir. Alors on n'aura pas le temps de parler de ces personnages, mais ce qui m'a frappé, c'est que vous avez la faculté, comme beaucoup de personnes déracinées à un moment ou à un autre, de voir avec des yeux toujours très neufs, un regard neuf. Donc ces personnes-là que les gens côtoient, les autres côtoient, mais bon sang, on dit prêter, enfin une attention, tandis que vous, vous décelez toujours l'originalité, la... l'individualité de la personne.
Oui, je crois que j'aime profondément les gens, en fait. J'aime voir comment ils pensent, j'aime les regarder, j'aime regarder leur visage, même si c'est des gens très, très différents de partout. C'est pour ça que j'ai beaucoup voyagé aussi avec cette même ardeur à découvrir et cette passion. Et en Normandie, c'est fabuleux, toutes leurs histoires, le langage aussi, là. Et puis ce sont des gens, je vais encore en Normandie dans ce petit coin que je décris. D'ailleurs, la paysanne, elle m'appelle Colette de Beauvoir parce que c'est pas loin de Beauvoir en Lyons. Et quand je lui dis que j'écris, elle me dit, ah bah oui, c'est normal, vous êtes Colette de Beauvoir.
Alors, vous parlez d'écriture, vous parlez de lecture, et on voit quand même dans votre écriture, dans ce texte, on voit la marque de votre père spirituel, je dirais, celui qui vous a initié à une langue libre de conventions. Justement.
Oui, c'est Roland Barthes.
Bien sûr.
Roland Barthes m'a aussi beaucoup appris, à part, je vous disais, que
il m'a appris à lire le monde, avez-vous
voilà.
dit. Hein
oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, parce que bon, il y avait l'école aussi qui déjà m'a appris à regarder autre chose, à, voilà, à prendre la langue au sérieux, comme une amie, une compagne, et les livres également. Mais Roland Barthes, j'avais quoi, 21 ans et demi, hein, quand je suis rentrée dans son séminaire, donc on est encore très, très poreux. Et lui avait cette façon de voir le monde toujours très riche, n'importe quel détail, on pouvait le décortiquer, l'ouvrir, le mettre à l'envers, revenir. Il rendait la vie passionnante, voyez, et il nous disait, oui, vous êtes maître de votre regard, oui, et tout ce que vous voyez, vous pouvez l'enrichir.
C'est une liberté.
Et c'est, voilà, ça a été une liberté magnifique et une douceur aussi.
Alors, écrire ce livre, il y a de multiples raisons pour l'avoir écrit, de l'avoir écrit. Quelles sont-elles, selon vous?
Ben, je crois que j'ai aussi quitté, quand je dis que je quitte ce pays, c'est que je quitte aussi toute une série de livres. J'ai écrit 6 livres, en fait, hein, qui ont attrait comme ça à la Tunisie et à la France. Et je crois que là, avec la violence de l'attentat, je referme la boucle. Parce que Avenue de France commençait avec la construction de la ville européenne en Tunisie, c'est pour ça que j'ai appelé Avenue de France, et j'ai fait tout un parcours historique et en même temps à la fois de ma famille, mais surtout d'une histoire collective. Et je crois que quitter, quand je dis je vais quitter et rendre les clés, c'est que maintenant j'ai envie d'aller vers un autre territoire.
On n'aura sans doute pas le temps de lire cet extrait que j'avais gardé pour la fin de notre entretien. Je voulais remettre mes pas dans ceux des absents, retrouver ce qu'ils avaient laissé dans la ville, dans la matière même des paysages et de l'air, converser avec les milliers de noms ensevelis au cimetière du Borgel, lire les poèmes d'amour inscrits dans la pierre des tombes, fixer les eucalyptus centenaires qui étaient déjà là, sur les mêmes routes, lorsque mes parents étaient enfants et jouaient dans les ruines de Carthage ou sur la plage de la Marsa. Voilà, et la tentation est encore grande, car je sens bien que je suis vraiment devenue une étrangère dans ce pays, que ma vie est en France et qu'elle est si éloignée de ce que je vois et de ce que j'entends ici, mais la tâche que je me suis donnée, je ne pourrai plus l'abandonner maintenant, même si trop lourde elle est devenue. Ce soir pourtant, pour la première fois, je dis pause, moi aussi. Il y a un combat pour la douceur, disait Roland Barthes, c'est ce combat que je choisis à mon tour.
Oui, c'est vrai. C'est ce livre, c'est mon combat pour la douceur. Voilà, face à la violence, je crois qu'on peut chacun trouver le chemin de la douceur et le faire partager aux autres.
Un grand merci, Colette Fellouze. Je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de pièces détachées aux éditions Gallimard. Au revoir.
Merci à vous, Monique.